Des commémorations dans l'Ukraine tout le week-end dernier, 2 ans après le début du conflit, donc après le début de l'invasion russe. Un hommage aux personnes décédées dans la petite ville de Boutcha, notamment où les forces russes sont accusées d'avoir commis des crimes de guerre contre des civils. Cette guerre est donc entrée dans sa 3e année. La Russie espérait pourtant une guerre éclair, mais aujourd'hui, le conflit s'enlise. Alors qu'il est près de 20% du territoire ukrainien est contrôlé par la Russie. De son côté, le président ukrainien Zelensky a avancé pour la première fois un chiffre, 31 000 soldats ukrainiens tués depuis le début du conflit, sans parler bien sûr des milliers, voire des dizaines de milliers de civils qui ont perdu la vie. Il n'y a pas de bilan précis. Et puis il y a aussi les millions de déplacés en Ukraine et dans d'autres pays. Le président ukrainien qui espère toujours davantage de soutien de la part à la fois des États-Unis et de l'Union européenne. Et il souhaite aussi que davantage d'hommes soient mobilisés. Dans ce cadre, dans ce contexte, donc 2 ans après le début de la guerre, Wilson Fash s'est rendu sur le front de Zaporizhzhia, c'est dans le sud-est de l'Ukraine, et il y a tout d'abord rencontré un soldat ukrainien, un sergent séparé de sa famille par une ligne de front.
Il faut marcher une 20aine de minutes depuis la route la plus proche pour arriver jusqu'au campement de l'unité Shiza. Le sol est boueux. Le ciel est gris, les arbres ont perdu leur feuillage et certains troncs ont été foudroyés par les bombardements. Ces arbres morts hérissent la prairie comme des dents pointues. On a presque l'impression d'entrer dans la gueule d'un monstre. Nous sommes accueillis par le sergent en charge de cette unité d'artilleurs. Il s'appelle Evgen et il a 34 ans. Il porte une barbichette au menton et un bonnet sur la tête. Nous ne sommes pas là par hasard, ça fait des semaines que nous voulions venir à cet endroit pour rencontrer cet homme et entendre son histoire. L'histoire d'un homme séparé de sa famille depuis 2 longues années. L'histoire d'un homme qui s'oblige à ne plus parler à ses proches.
Je prends des nouvelles d'eux par l'intermédiaire d'autres personnes. J'essaye de ne pas leur écrire directement à cause des agents du renseignement russe qui mènent des inspections. S'ils trouvent des messages de ma part, mes proches seront en danger. Ils les emmèneront dans un sous-sol et les tortureront. Donc je préfère prendre de leurs nouvelles sans les contacter. D'autant plus que les Russes les ont déjà interrogés à mon sujet. Ils cherchent des informations à mon sujet. Mais ma famille ne leur a rien dit et ils sont repartis. Heureusement, mes proches vont bien, ils sont en bonne santé et certains d'entre eux ont réussi à quitter la zone et sont désormais à Zaporizhzhia. Ils ont même trouvé du travail. Dieu merci, ils vont bien. Parfois, je leur envoie de l'argent pour les aider.
Sa grand-mère, son frère et sa sœur vivent à quelques dizaines de kilomètres seulement, à peine 1 heure en voiture. Mais depuis le 24 février 2022, une ligne de front infranchissable sépare cette famille. Ce jour-là, la Russie lance son invasion à grande échelle de son voisin ukrainien et s'empare rapidement de larges pans du territoire.
For all his bombs and tanks and missiles, I don't believe that the Russian dictator will ever subdue the national feeling of the Ukrainians.
Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави.
Я був в шокі, я не мог повірити этому. Вообще не мог, я никогда не мог подумать, що Запорізька область буде в окупації. Ми вже продвигались до повномасштабної війни, вже були в ешелоні.
J'étais en état de choc, je n'arrivais pas à y croire. Je n'avais jamais pensé que la région de Zaporizhzhia pourrait être occupée. Il y avait déjà le choc de savoir que nous subissions une invasion, mais à ce moment-là, je ne savais pas que la région était déjà occupée car il n'y avait pas Internet et les communications étaient coupées. Lorsque j'ai pu rétablir une connexion, j'ai vu sur Internet que l'ennemi était déjà entré dans mon quartier. Là, mon commandant m'a dit « Félicitations, vous allez pouvoir libérer votre région natale ». Au cours des 24 premières heures, nous nous sommes battus battu pour arrêter l'avancée des Russes. Il y a eu des batailles sanglantes pour les empêcher d'atteindre la ville de Zaporijia. La tâche a été accomplie, nous avons arrêté l'ennemi.
Lui et ses hommes, 8 personnes en tout, membres de la 128e brigade de l'armée ukrainienne, tiennent une position située à une dizaine de kilomètres des Russes. Leur arsenal, un canon d'artillerie, volé à l'occupant dans la région de Kherson, qu'ils sont contraints d'utiliser avec parcimonie, faute de munitions suffisantes. Leur second canon a l'avantage d'être plus économe encore, font-ils remarquer, puisqu'il s'agit d'un leurre, fabriqué avec des planches en bois, est destiné à tromper les drones qui essaiment le ciel.
L'endroit où je me trouve là actuellement, ça a été l'un des points de départ de la contre-offensive ukrainienne l'été dernier. Le but, c'était de partir d'ici et d'arriver jusqu'à Mélitopol, arriver à la mer d'Azov et couper les forces russes en deux. Mais rien s'est passé comme prévu. Les Ukrainiens ont avancé d'à peine quelques kilomètres, ils ont pris une poignée de villages. Et Mélitopol se trouve toujours à 80 km d'ici. Donc ça a été un échec.
Evgen ne cherche pas à cacher son désarroi lorsqu'il évoque l'échec de la contre-offensive lancée à la fin du printemps dernier. Les troupes de Kiev espéraient alors avancer jusqu'à la mer d'Azov pour couper les forces russes en deux blocs. C'était sans compter sur la défense farouche de l'ennemi, protégée par des champs de mines et des fortifications.
Засмучувало і були надежди, що даже об этом мечтал, що вот мы должны были летом зайти в Мелитополь.
C'est frustrant, nous avions beaucoup d'espoir. Je rêvais de reconquérir la ville de Mélitopol durant l'été. Et de Mélitopol, il n'y avait plus qu'un pas à faire pour que je puisse rentrer chez moi et retrouver mes proches. Nous avons pourtant tout donné. Les batailles ont été terribles avec des pertes très lourdes. Je suis très déçu que nous n'ayons pas pu atteindre notre objectif. En fait, nous n'avions pas assez d'armes et nous n'étions pas suffisamment préparés.
Полностью так закрыть, как говорится. По боекомплекту не хватало. Поэтому немножко были не готовы к этому.
Entre son soutien aux forces séparatistes du Donbass depuis 2014, l'annexion de la Crimée la même année et l'invasion à grande échelle lancée en 2022, la Russie contrôle à ce jour près de 20% du territoire ukrainien et ne semble toujours pas rassasiée. Si la contre-offensive avait atteint ses objectifs, Evgen aurait pu nous accueillir chez lui, entouré de sa famille. À la place, nous voilà sur le front de Zaporijia, dans le froid, à portée de tir des canons russes. Sur le front, ce soir-là, aucun coucher de soleil ne viendra réchauffer l'horizon, juste du gris clair qui vire au gris foncé, comme si la guerre avait vidé le ciel de ses couleurs. Dans la cuisine du campement, construite à l'aide de caisses de munitions, Volodymyr, bientôt cinquantenaire, coupe des carottes et des betteraves en prévision du potage qu'il compte servir ce soir. La fumée des cigarettes et les vapeurs d'eau ont plongé la pièce dans une brume épaisse. Volodymyr raconte qu'il est le seul à savoir bien cuisiner, donc chaque soir, c'est lui qui est en charge du repas. Il est deux fois plus âgé que les autres soldats de l'unité. Et il prend bien soin d'eux, mais il refuse d'être considéré comme une figure paternelle. Ici, nous sommes tous égaux, insiste-t-il. Son fils est pourtant bien là, enfoncé sous terre comme une taupe, dans un abri qui sert de dortoir. Il s'appelle Nicolas et il a tout juste 21 ans.
C'est plus facile d'avoir mon père avec moi ici car ma famille me manque. Mais au moins, j'ai un membre de ma famille à mes côtés, ça aide un peu. Bien sûr, il arrive qu'on ne s'entende pas. Je peux être de mauvaise humeur et me disputer avec lui.
Père et fils racontent avoir rejoint cette brigade le même jour, en novembre 2020. Nicolas venait d'atteindre la majorité. Puis l'invasion a débuté et le reste de la famille a voulu en être aussi, à commencer par le cadet de la fratrie.
Пару раз сказав, що він хоче йти з нами попробувати послужити, типа я йому сказав, що типа не можна, тому що
il a dit plusieurs fois qu'il voulait nous rejoindre pour servir avec nous. Je lui ai dit de ne pas le faire car il ne savait pas si ça lui plairait. Je n'aime pas l'idée que mon frère puisse servir dans l'armée. Moi je suis là et je sais qu'il n'y a rien d'amusant à être ici. Je ne veux pas qu'il ait la même vie que moi.
Нічого веселого немає. Так що я йому такого не хочу, як собі.
Tandis qu'Evgen a été séparé de sa famille par une ligne de front, voilà ce père et ce fils réunis par la guerre au sein de la même unité. Du côté de Volodymyr, même discours, pas question de laisser son plus jeune fils rejoindre l'armée.
Je suis déjà à la guerre avec un fils, donc je ne veux pas que mon fils cadet fasse également son service. Il faut bien que quelqu'un reste à la maison pour s'occuper de ma mère, sa grand-mère. Elle a 71 ans maintenant. Elle a subi une opération du cœur et quelqu'un doit s'occuper d'elle. Ma fille, elle, étudie. Elle a seulement 17 ans. Ma femme est également à la maison. Elle voulait aussi rejoindre l'armée, mais je lui ai dit pourquoi faire. Tant que nous sommes tous les deux ici, c'est suffisant. Si tout le monde part à la guerre, qui restera à la maison? Il fallait bien que quelqu'un s'occupe de notre domicile. Dans notre village, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Environ 6 hommes du village sont au front, tandis que certains sont en Pologne ou en Allemagne, car ils ne veulent pas aller à la guerre. Mon fils et moi, nous avons signé un contrat de 3 ans. Bien sûr, nous en avons marre, mais nous devons tenir. Nous n'avons pas le choix. Si pas nous, qui d'autre le fera?
Я так понял, поки не закінчиться ця війна. Ну, вже, звісно, треба його, але ж мусимо терпіти, а як? Хто як не ми?
Assis en tailleur sur son lit de camp, le visage poupin de Nicolas est éclairé dans la pénombre par l'écran de son téléphone portable. Les autres soldats sont presque tous dans leur lit pour se réfugier du froid. À part Evgen et Volodymyr, ces hommes ont tous entre 21 et 30 ans, des frères d'armes, une seconde famille que Nicolas considère aussi importante que sa véritable famille.
Ici, tout le monde est égal, nous sommes tous putains d'égaux. On n'aime pas quelqu'un plus ou moins qu'un autre, nous sommes tous pareils. Si quelque chose arrivait à mon père, je me sentirais terriblement mal, comme n'importe quel fils.
Dix ans de guerre et 2 ans d'une invasion à grande échelle ont profondément affecté les familles du pays. Si Nicolas et son père Volodymyr ont été réunis par la guerre, la majorité des Ukrainiens ont été séparés de leurs proches. Séparés par une ligne de front, comme Evgen, séparés par une frontière, comme toutes ces femmes et ces enfants qui ont trouvé refuge à l'étranger, alors que les hommes du pays n'avaient pas le droit de quitter le territoire. Et puis au sein même du pays, il y a ces familles séparées par le devoir, séparées par le service. Mais jusque quand? C'est ça la question que se posent aujourd'hui les Ukrainiennes qui ont vu leur mari, leur père ou leur frère quitter le domicile pour rejoindre l'armée et repousser l'assaut des Russes.
Якщо до кінця, тоді всі.
Ma famille et mes enfants ont le droit de savoir quand leur père rentrera à la maison.
Нехай визначають термін. Моя сім'я і мої діти мають право знати, коли їх батько прийде додому.
Не перетинайте обмежувальну лінію, нанесену на краю платформи до повного зупинення поїзда.
Deux ans plus tard, ces femmes estiment que leurs proches ont rempli leurs devoirs et méritent de pouvoir rentrer à la maison. Elles sont 200, peut-être même 300, et ont bravé la neige pour se donner rendez-vous sur la célèbre place Maïdan à Kiev. Natalia a 40 ans et son mari, Alexander, est déployé depuis le 15 mars 2022, juste après le début de l'invasion. Elle tenait à venir manifester aujourd'hui pour réclamer la démobilisation de son mari.
Для мене, особисто для мене, чому це так можливо? Тому що моє життя на сьогоднішній день стало на паузу.
Pour moi personnellement, pourquoi est-ce important? Parce que ma vie s'est arrêtée. Nous avions prévu d'avoir des enfants, je suis déjà âgée et je n'en ai toujours pas. Nous commencions à planifier une famille au moment de partir en vacances, juste avant le début de l'invasion. À notre retour de vacances, le 24 février, la guerre a commencé et nous nous sommes retrouvés sous occupation dans notre village près de Boutcha.
Я просто вважаю, що навіть у злочинців є якісь терміни. Не прав, це ж так і є. А наші воїни, вони пішли, вони навіть не знають, скільки вони там ще будуть. На сьогоднішній день у наших солдатів вихід.
Nous ne sommes pas seulement ici pour nos familles, nous sommes ici pour toutes les personnes qui seront mobilisées pour aller défendre le pays. Ils ont également le droit de savoir combien de temps ils resteront au front. Je pense que c'est normal, c'est la démocratie, c'est le droit de chaque guerrier de savoir combien de temps il devra faire la guerre. Mais pour le moment, ces droits de l'homme sont violés. Je pense qu'aujourd'hui, les droits de mon mari et de ma famille sont violés. Je ne veux pas que les gens pensent que nous allons perdre la guerre si jamais on instaure une durée de service maximum. Nous avons une armée puissante après tout.
Я вважаю, що на сьогоднішній день порушуються права людини, мого чоловіка, моєї родини. Потрібно, він прийде, він відпочине, він потім замінить тих, хто втомиться. От і все, оце я мала на увазі. Я не хочу, щоб думали, що війну ми не програємо, в нас сильна армія.
Ces femmes réclament en fait l'instauration d'un service militaire d'une durée maximum de 1 an et demi. Elles veulent donc le retour de leurs proches dès aujourd'hui. Elles argumentent également que si une durée maximum de mobilisation est instaurée, plus d'hommes oseront rejoindre l'armée.
Я хочу просто це більше навіть не для нас, як для самих військових. Це мотивація.
Mon opinion est la suivante. Un service maximum de 18 mois, c'est motivant pour ceux qui hésitent à servir. Pourquoi les gens ont-ils peur? Pourquoi les gens se soustraient-ils à l'armée? Car ils ne connaissent pas l'échéance de leur service. Une date limite facilitera les choses. Les gens sont simples, ils ont besoin de pouvoir se projeter avec une date précise en tête.
Ті, хто там були в окопах і є в окопах, вони не виживають. Там їх
Tetiana a 36 ans, son mari et son frère sont tous les deux sur le front.
Ainsi, les personnes qui ne sont pas encore mobilisées sauront combien de temps elles devront servir. Elles seront en mesure de planifier une certaine forme de vie. Sans cela, ils partent pour une durée indéterminée jusqu'à la mort, en fait.
Le pays peut-il vraiment se permettre de laisser une partie de ses soldats retourner à la vie civile, alors que les Russes avancent inexorablement ? Pour Marina, une pharmacienne de 34 ans, c'est tout simplement au tour des autres de répondre à l'appel.
Cette guerre dure depuis bientôt 2 ans et ce sont toujours les mêmes qui combattent. Comment se fait-il qu'on croise tant d'hommes en ville, au volant de leur voiture, en train de se balader? C'est eux qu'il faut mobiliser et entraîner. Avec son service, mon mari a donné au gouvernement l'opportunité de s'organiser. Maintenant, s'il vous plaît, il est temps de faire les choses autrement. Cette guerre ne doit pas se faire uniquement sur le dos des mêmes personnes.
Elle est venue accompagnée de son fils, Roman, qui était encore un bébé au début de la guerre, un petit garçon qui a grandi sans son père. Alors que son mari est au front, elle ne supporte plus de voir certains Ukrainiens éviter le service militaire. Mi-décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la probable mobilisation de près de 500 000 nouvelles recrues. Depuis lors, les convocations se multiplient, y compris ici, dans la capitale, où certains hommes se sont ainsi retrouvés mobilisés du jour au lendemain, après un contrôle inopiné, dans la rue, dans une salle de sport ou dans un magasin. Alors certains se cachent et font tout leur possible pour éviter les conscripteurs, au grand regret de Marina, qui attend que plus d'hommes rejoignent l'armée, afin que son mari Anton puisse retourner à la maison.
Ils vivent normalement et essayent d'acheter de faux certificats médicaux pour éviter la mobilisation. J'ai beaucoup de connaissances comme ça pour qui le principal problème serait de recevoir une convocation. Devant moi, des gens que je connais osent se plaindre des conscripteurs et du fait que certains hommes ont reçu une citation à comparaître alors qu'ils se baladaient dans la rue. Et ils trouvent cela désolant, que ce n'est pas normal dans un état de droit. Eh bien, je suis désolée. Mais les citoyens n'ont pas seulement des droits, mais aussi des obligations. Il faut que chaque homme se prépare à la mobilisation, car soit vous protégez votre maison, votre foyer, soit vous irez vivre en Pologne, dans un camp de réfugiés.
Або ти живеш на кордоні з Польщею в палаці ЮНІСЕФ.
Sur le front de Zaporijjia, le soleil s'est couché, plongeant le campement d'Evgen dans l'obscurité. Pour ce sergent, la bataille existentielle que mène l'Ukraine est un combat forcément personnel. Libérer son pays, c'est libérer sa propre famille, et le temps presse. Evgen craint que les membres de sa famille qui vivent sous occupation soient forcés de prendre la nationalité russe pour participer de force à un vote truqué.
Заставляют брать насильно заставляют под репрессиями брать русские паспорта.
Les Russes tentent de les contraindre à prendre des passeports russes, mais jusqu'à présent, aucun de mes proches n'en a pris un. Ils s'y refusent, ils attendent que nous arrivions bientôt pour les libérer. Les Ukrainiens, en tout cas ceux qui sont sains d'esprit, savent que nous allons bientôt arriver. Nous viendrons, nous libérerons ce territoire et tout ira bien. Mes proches n'acceptent pas le passeport russe, mais les Russes vont les menacer parce que les élections approchent. J'ai peur qu'ils les forcent à participer aux élections sous la menace d'une arme.
Як прошлый раз на выборах участвовать под дулом автомата.
Deux ans après le début de l'invasion, l'Ukraine doit faire face au spectre d'une lassitude des puissances occidentales et des États-Unis en particulier, alors que le pays vient de subir une défaite importante à Avdiivka, une ville industrielle de la région du Donbass, à l'est, qui est tombée aux mains des Russes après des mois de combats acharnés. Les Ukrainiens, moins nombreux et moins armés, avaient été contraints de battre en retrait. Au sud, la perspective d'une percée vers le village natal d'Evgen reste pour le moment illusoire, mais pas question pour le sergent de se laisser manger par le doute, en tout cas pas tant que sa grand-mère, son frère, sa sœur et des millions d'autres citoyens ukrainiens vivent toujours sous occupation.
Так, більше, звісно, більше дає мотивації. У мене є конкретний, ну, як правильно сказати, напрямок. Я знаю, чого я тут. Вот.
Je sais pourquoi je suis ici. Nous sommes sur notre propre terre. Nous devons la libérer. C'est non négociable. Nous n'accepterons aucun traité de paix, seulement la libération totale de notre territoire. Tout le monde ici se bat pour ses enfants, pour ses femmes. Si nous n'arrêtons pas l'ennemi et ne le dégageons pas de notre pays, il ira plus loin. Tout le monde sait que si nous faisons 4 pas en arrière, ils en feront 6 en avant. Tout le monde comprend cela et tout le monde est ici par choix pour détruire l'ennemi, afin que dans 10 ou 15 ans, il n'y ait plus de guerre sur notre territoire et que nos enfants puissent vivre en paix.
Через 10-15 років не було на нашій землі війни і наші діти не воювали.
Voilà, vous avez entendu il y a quelques instants les craintes donc de ce soldat, de ce sergent ukrainien Evgen, pour sa famille qui se trouve en zone occupée par les Russes, puisque l'élection présidentielle en Russie se tient ce mois-ci, à partir du 15 mars, des élections, vous l'avez entendu, qu'il qualifie de truquées. C'était un reportage de Wilson Fash en Ukraine, 2 ans donc après le début de l'invasion russe.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits sur RTBF Ovio.